Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 31e épisode du podcast Interstice. Nous recevons André Seznec, directeur de recherche à l'INRIA Rennes Bretagne Atlantique, avec lequel nous allons parler des performances des processeurs multicœurs. André Seznec, bonjour.
Bonjour.
On dit beaucoup de choses sur ces processeurs multicœurs. Nous allons voir plus en détail ce que vous faites, mais avant, dites-moi, est-ce réellement la solution d'avenir des systèmes informatiques ?
On dit que c'est la solution d'avenir, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire que depuis le début de l'informatique, la plupart des applications ont été exécutées sur des ordinateurs où il n'y avait qu'un seul processeur, un seul cœur d'exécution. Et depuis une dizaine d'années, pour des raisons essentiellement technologiques, on est aujourd'hui capable de mettre sur un seul composant plusieurs, bientôt plusieurs dizaines, et sans doute, dans une dizaine d'années, plusieurs centaines de processeurs. Et l'histoire de l'informatique fait que, quand on a été capable de réaliser, du point de vue technologique, des composants, on a toujours essayé d'en tirer parti. Mais vraiment, on est au moment où on se demande, et aussi bien l'industrie que la recherche, si on sera vraiment capable de les utiliser.
Juste pour mettre les choses au clair, un processeur, c'est un peu comme le cerveau d'un ordinateur, c'est bien ça ?
Oui, le processeur, c'est celui qui exécute le programme, qui commande l'ordinateur, c'est le cerveau exactement de l'ordinateur.
Donc, ces processeurs multicœurs, qu'ont-ils de si particulier ?
Eh bien, jusqu'en à peu près 2000, la technologie progressait, et ce qu'on arrivait à faire, c'est à mettre de plus en plus de fonctionnalités au sein du cerveau. C'est comme si vous n'ayez eu qu'un cerveau limité, et puis peu à peu, on lui a rajouté la vue, l'audition, le toucher, etc. Et arrivé en l'an 2000, on avait rajouté toutes ces fonctionnalités, on l'avait accéléré de manière fantastique, et puis on savait plus trop quelle autre fonctionnalité lui rajouter. Et puis on s'est dit, pourquoi ne mettrait-on pas 2 cerveaux ? Et puis après, 4 cerveaux, 10 cerveaux, 20 cerveaux, 100 cerveaux.
Ok, et quels sont donc les avantages et les inconvénients des processeurs multicœurs ?
C'est exactement comme avoir 2 cerveaux. Vous pouvez faire 2 choses en même temps. Exécuter différents programmes, et la vraie difficulté vient quand vous essayez d'exécuter, de partager ces 2 cerveaux, c'est-à-dire les faire travailler sur la même chose.
Votre activité de recherche porte essentiellement sur l'architecture des processeurs, c'est-à-dire leur structure, leur organisation. En quoi consistent exactement vos travaux ?
Alors, moi, je suis un architecte d'ordinateur. Donc, ce que je fais, c'est essayer d'organiser l'intérieur du processeur ou du multicœur, de l'agencer pour que les programmes s'exécutent le plus vite possible. Voilà, je décide si ici, nous mettrons telle unité fonctionnelle, telle pièce, pour essayer d'aller plus vite ou pas.
D'ici 2020, l'industrie pense pouvoir dépasser les 100 cœurs sur un seul composant. Mais si j'ai bien compris vos travaux de recherche, vous pensez qu'avec la multiplication de ces processeurs multicœurs, on va finir par atteindre une limite en termes de performance. Vous réfléchissez à d'autres solutions ?
Alors, en fait, il y a eu un très très gros progrès quand on est passé de 1 à 2 cœurs, et puis de 2 à 4 cœurs. Quelque part, on est passé du moment où on avait envie de faire une tâche principale, et votre ordinateur ne faisait que cette tâche principale, au moment où on est capable d'exécuter une tâche principale et puis quelques tâches annexes. Par exemple, vous êtes capable d'éditer un document avec Word ou un autre éditeur de logiciel et écouter de la musique en même temps. Donc ça, quand on est passé de 1 à 2 cœurs, de 2 à 4 cœurs, on a eu cette souplesse d'utilisation. Et puis, maintenant, quand on va passer de 4 à 10, à 20, ou 30 cœurs, ou 100 cœurs, eh bien, on n'aura plus ce besoin d'exécuter des choses complètement indépendantes, ce qu'on aura comme vrai besoin, ou du point de vue performance, c'est que mes 100 cœurs exécutent la même tâche.
Oui, mais pour faire de l'édition de documents Word, on n'a pas vraiment besoin de 100 cœurs.
Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est plus de l'édition de documents Word, c'est des simulations numériques très compliquées, c'est des générations d'images très complexes pour votre jeu préféré, etc. Donc des tâches qui demandent beaucoup, beaucoup de calculs, mais des calculs coordonnés, des calculs qui ont un rapport entre eux.
Vous venez de recevoir une subvention du Conseil européen de la recherche, une ERC, en tant que lauréat, pour votre projet DAL, qui signifie « Défier la loi d'Amdahl ». Expliquez-nous ce défi.
Alors, voilà, la structure d'un programme, c'est en général une succession d'instructions. Il y a certaines de ces instructions, de ces opérations, qui peuvent être exécutées en parallèle. Donc, et vous pourriez les mettre sur les différents processeurs, mais il y a une partie du programme, en fait son contrôle, qui en général ne peut pas être exécuté en parallèle. Donc vous avez un squelette qui reste séquentiel et donc qui doivent être exécutés les uns derrière les autres. Et la loi d'Amdahl, ça vous dit simplement que le temps d'exécution global de l'application ne peut pas être inférieur à l'exécution de ce squelette séquentiel.
Donc c'est là qu'il y a une limite en termes de performance ?
Il y a une limite en termes de performance, oui.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté ?
Alors, la principale difficulté, c'est justement cette limite. On est, depuis le début de l'informatique, on a essentiellement essayé d'accélérer le processeur. Et puis, vers 2000, en fait, pour des raisons technologiques essentiellement, on n'y est plus beaucoup arrivé parce qu'on avait beau rajouter des transistors et des transistors, on n'arrivait pas à aller plus vite sur la partie séquentielle pour des raisons de consommation électrique sur le composant.
Parce qu'un processeur, ça consomme beaucoup d'énergie ?
Oui, un processeur, ça consomme beaucoup de courant.
Ok, et pour en revenir aux difficultés ?
Je ne parlerai pas de difficultés, je parlerai de...
Défis ?
De défis intéressants, exactement, qui est comment faire pour agencer les processeurs qui normalement sont faits pour exécuter des opérations en parallèle, pour qu'ils apportent leur contribution à l'exécution d'un programme séquentiel, hein. Sachant que si j'ai 1000 processeurs, mais que mon programme est séquentiel, en fait, même si j'utilise ces 1000 processeurs simplement pour réduire le temps d'exécution de cette partie séquentielle de 20 ou 30%, c'est rentable. Donc c'est, intellectuellement, c'est assez intéressant de se dire j'ai 1000 processeurs et en fait, j'ai le droit de les gaspiller pour exécuter une application qui, de toute façon, normalement est séquentielle.
Oui, mais si vous pouvez réfléchir à ça aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu une évolution technologique importante, non ?
Oui. Alors, depuis, disons, le milieu des années 70, les chercheurs et aussi les industriels ont essayé de bâtir des architectures parallèles, hein, des machines multiprocesseurs dont le but était d'obtenir de la performance sur des applications qui en demandent beaucoup. Et maintenant, on est arrivé à l'époque où toute application doit s'exécuter sur une machine parallèle. Il y a 20 ans, on utilisait une machine parallèle pour exécuter un programme intrinsèquement séquentiel. C'était vraiment du gaspillage éhonté de ressources. Aujourd'hui, si je prends mon PC à la maison et qu'il a 16 cœurs ou 30 cœurs ou 100 cœurs, si j'utilise les 100 cœurs pour accélérer un tout petit peu mon jeu ou bien mon application, mon Excel ou n'importe quoi, eh bien, je suis gagnant.
Pour conclure, quels sont vos projets pour l'avenir ?
L'ERC, ça va me permettre de lancer sur ce sujet de nouveaux jeunes et essayer de trouver des directions pour influencer l'architecture des processeurs des années 2020.
En fait, on peut dire que votre objectif, c'est en quelque sorte de réussir à devancer certains problèmes du futur.
C'est vrai qu'on pourrait me dire, mais aujourd'hui j'ai 2 ou 4 cœurs, pourquoi essayer d'anticiper les problèmes qu'on aura quand il y aura 100 cœurs ? On s'en débrouillera bien à cette époque-là. Non, la recherche, c'est toujours essayer d'anticiper les problèmes qui seront dans 8 à 10 ans, quitte à se tromper d'ailleurs.
André Cesnec, merci d'avoir accepté cet entretien. Rendez-vous peut-être en 2020 pour faire un nouveau point sur les processeurs multicœurs. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.